Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est une affaire assez sordide que je vais vous raconter. L'enquête sur le meurtre en janvier 2001 d'une jeune Australienne qui s'appelait Janet O'Keefe. Elle était venue en France pour découvrir notre pays, notre culture et notre langue. Et un jour, elle est tombée sur un sale type. Et ce sale type, il a fallu 8 ans pour l'identifier. Pour débriefer cette affaire, je ferai appel tout à l'heure à maître Cathy Richard du barreau de Pontoise, qui était dans ce dossier avocate de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec O'Keefe, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La scène, terrible scène, se déroule le mardi 2 janvier 2001 dans la cité des musiciens, au Mureau, dans les Yvelines. Comme tous les matins, un gamin de 12 ans promène son clébard avec son cousin.
Viens ici, mon chat! Viens ici, je te dis!
Mais le kleps n'obéit pas. Il cavale en direction d'un terrain vague.
Au pied! Au pied!
Rien à faire. Alors les deux cousins le suivent sur le terrain vague. Le chien s'est arrêté devant un truc bleu. On dirait un sac de couchage. Mais pas un gros truc en plume, hein. Un sac tout léger, en nylon. Il s'approche, il y a quelqu'un dedans. Il donne un petit coup sur le sac de couchage, pas de réaction.
Papa ? Papa, il y a un type dans un sac de couchage sur le terrain vague. On a essayé de le réveiller, il répond pas.
Le père descend voir, il s'approche du sac de couchage, il soulève la capuche. Ça n'est pas un homme, c'est une femme, en sang. Et si elle ne répond pas, ben c'est qu'elle est morte. Quand les pompiers arrivent, ils dégagent le corps du sac de couchage. La femme a le visage tout bleu. Elle est couverte de sang. La police judiciaire de Versailles arrive dans la foulée avec un médecin légiste. Bien. Nous sommes en présence d'une femme de type européen d'une 30aine d'années, point. Elle est brune aux cheveux longs, point. Elle a les cheveux clairs, point. Elle est allongée sur le ventre, virgule, les bras repliés, virgule. Le visage reposant sur le côté droit, point. Elle est vêtue d'un t-shirt, virgule, d'une vaste chemise à carreaux qui semble être une chemise d'homme, virgule. Et elle porte un pantalon de survêtement bleu marine, point. Elle a des marques de cou sur le visage, virgule, et porte des traces de strangulation autour du cou, point. La femme aurait donc été étranglée. Les policiers fouillent ses poches, aucune pièce d'identité.
Tu trouves pas bizarre, toi, que le corps et le sac de couchage soient secs? Et il a plu non-stop depuis 3 jours. Regarde, tout est mouillé autour. Et le sac, lui, il est sec. Elle n'a pas été tuée là, cette femme. On l'a amenée ici dans ce sac de couchage après l'avoir tuée.
Bon, ok. Vous enlevez le corps. Et docteur, on se retrouve à l'Institut Médico-Légal. Bon, alors, docteur, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, écoutez, elle a reçu des coups violents sur la tête avec un objet contondant. J'ai compté 13 coups au total.
Et c'est de ça qu'elle est morte, docteur ?
Non, non. Elle a été étranglée, 2 fois. D'abord avec les mains, et ensuite avec un cordon. Vous voyez les sillons très marqués, là, sur le cou ? C'est d'ailleurs à se demander si elle n'a pas été pendue, cette femme. Et la date et l'heure de la mort, docteur ? Je dirais que la mort remonte à 24 heures, 30 heures maximum.
Et est-ce qu'elle a été violée, docteur ?
Non. Non, elle n'a pas eu non plus de relations sexuelles. D'ailleurs, elle avait ses règles. Hein. Et elle portait un tampon.
Ok, docteur, autre chose ?
Oui. J'ai trouvé des fragments de peau sous ses ongles, ce qui peut indiquer qu'elle s'est débattue. Et donc, on a peut-être l'ADN du tueur, hein.
Les experts ont aussi trouvé des poils dans le sac de couchage. Tout ça est envoyé au labo. Alors, qui est cette femme ? Avec la photo de son visage tuméfié, les policiers de la PJ font le tour de la cité.
Ah non, ça me dit rien du tout. Non. Rien du tout.
Personne ne la connaît.
Bon, visionnez-moi toutes les bandes vidéo des 5 caméras de surveillance du quartier, ok ?
Ça ne donne rien non plus. Du coup, les flics de la PJ lancent une circulaire de recherche. Et une semaine plus tard, ils reçoivent un appel d'Interpol.
Dites, on a une disparition qui pourrait correspondre à votre cadavre. Une jeune Australienne de 28 ans, qui avait donc les cheveux châtains et les yeux verts, elle mesurait 1m52 et elle devait quitter la France pour New York début janvier et depuis sa famille en Australie n'a plus de nouvelles.
Ah ok, intéressant. Vous pouvez me donner son nom ?
Oui, bien sûr, elle s'appelle Janet O'Keefe. O'K2EFE.
Et vous savez où elle résidait chez nous en France ?
Oui. Oui, dans un foyer étudiant de Savigny-sur-Orge. C'est dans l'Essonne.
Un foyer qui héberge souvent de jeunes étrangers qui veulent visiter Paris et apprendre le français. Les flics y vont tout droit.
Bonjour mademoiselle. Vous pouvez regarder cette photo et me dire si vous avez déjà vu cette femme ici ?
La photo, je le redis, est une photo du visage tuméfié. Elle est assez crado.
Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Oui, je l'ai déjà vue ici. C'était une fille assez discrète. Hein. On peut voir sa chambre. Mais elle a quitté le foyer. Attendez, je regarde sur le registre. Elle est partie le 31 décembre. Maintenant que vous me parlez d'elle, je me souviens, elle avait un énorme sac à dos et puis une très grosse valise.
Est-ce que vous accepteriez, mademoiselle, de venir l'identifier à la morgue ?
À la morgue ? Bon, d'accord.
Et là, au foyer, les flics tombent sur un néo-zélandais, la quarantaine, un certain Anthony Martin.
Janet O'Keefe ? Oh, je connais très bien. On visitait Paris ensemble plusieurs fois. Mais j'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 31 décembre.
Ah, vous l'avez vue le 31 décembre ?
Oui. Elle m'a appelé le 31 vers 7h30 du soir. Elle était très en colère. Elle devait retrouver son amie Élise, mais elle m'a dit qu'Élise n'était pas là. Et elle savait pas où dormir avant de prendre l'avion pour New York le 2 janvier. Et elle m'a demandé si possible venir chez moi. J'ai dit oui. Ok. Et donc je lui ai donné rendez-vous devant un restaurant des Champs-Élysées. Mais bon, je suis arrivé en retard. Je l'ai attendu jusqu'à 10h30. Elle n'est pas venue.
Évidemment, puisqu'il est le dernier à l'avoir vu, ce néo-zélandais est tout de suite suspecté. Alors les policiers de la PJ perquisitionnent Saturne à Boulogne-Billancourt. Nothing. Rien d'intéressant. En revanche, quelques jours plus tard, en épluchant ses mails, les policiers tombent sur un message très intéressant.
Écoutez ça. Notre gars a envoyé un mail à la mère de Janet O'Keefe dans lequel il lui explique, je cite, avoir raté son rendez-vous avec Janet aux Champs-Élysées à cause d'un autre rendez-vous qu'il a retenu trop longtemps en banlieue. Il nous a jamais parlé de ce rendez-vous en banlieue.
Par ailleurs, grâce au bornage de son téléphone portable, les flics s'aperçoivent que le soir du 31 décembre, le Kiwi est arrivé beaucoup plus tôt qu'il ne l'a dit sur les Champs-Élysées. 20h45. Alors pourquoi est-ce qu'il a menti en disant qu'il était très en retard ? Le néo-zélandais est illico placé en garde à vue.
Alors, monsieur Martin,
Vous étiez vraiment en retard sur les Champs-Élysées le soir du 31 décembre?
You understand my question?
Oui, oui, très bien.
Bon, c'est vrai, je mentis. Ce rendez-vous avec Janet, je voulais pas y aller. J'étais très colère contre elle. J'avais invité elle à Noël. J'ai préparé un super dîner. Et tout ça pour rien. Et elle est pas venue. Elle est pas venue. Elle me téléphone à 9h du soir pour me dire « Je suis fatigué. » Et 3 jours après Noël encore, je attends dans la rue 3 quarts d'heure. Elle vient pas. Alors quoi? Moi, je dois être à l'heure au rendez-vous?
Mouais, mouais, mouais. Il dit peut-être vrai, hein, le kiwi. Mais comme il a menti par omission lors de son premier interrogatoire, comme c'est un vioque alors qu'elle, c'était une gamine, comme il lui a préparé dîner sur dîner et on comprend pas bien pourquoi, il reste suspect. Même si à la fin de sa garde à vue, le procureur ordonne qu'on le relâche. Mais avec interdiction de quitter le territoire. Hein. On sait jamais. Sauf que 2 mois plus tard, on s'aperçoit que ça n'est pas son ADN qu'on a retrouvé sous les ongles de Janet. C'est l'ADN d'un autre homme. Et donc exit la piste du kiwi. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'était assez commode d'avoir un suspect. Et maintenant, il n'y en a plus. Alors, comme toujours, il n'y a qu'une seule méthode. Mettre bout à bout tout ce qu'on sait. Tout ce qui est certain. Janet quitte le foyer de Savigny-sur-Orge en fin d'après-midi. A priori, elle a rendez-vous pour passer son réveillon avec une Française qui s'appelle Élise et qui habite mairie de Clichy. Élise est interrogée, bien sûr.
Ben, j'ai attendu, elle n'est pas venue. Alors j'ai appelé son foyer pour savoir s'il y avait un problème. Et là, ils m'ont dit qu'elle était partie.
Et là, il y a un hiatus. Élise dit que Janet n'est pas venue au rendez-vous mairie de Clichy. Mais Anthony dit que Janet lui a dit que c'était Élise qui n'était pas venue. Les flics trouvent ça étrange.
Moi, les gars, je me dis que bah, peut-être Janet, elle a confondu mairie de Clichy avec place de Clichy. Ça peut arriver quand t'es pas de Paris. Hein. Il y a tout un tas de pièges comme ça à Paris. Par exemple, Matignon, bah, c'est pas avenue Matignon. Et puis rue Montmartre, c'est pas à Montmartre. Faut se mettre à sa place.
À 19h30, Janet appelle Anthony Martin pour lui dire que son amie Élise n'est pas venue au rendez-vous. Et elle lui demande s'il peut l'héberger. Il dit OK. Et il lui fixe un rendez-vous à 20h30 aux Champs-Élysées. Mais comme c'est une reloue qui lui a déjà posé plusieurs lapins, il fait exprès d'arriver en retard. Et donc voilà notre Janet, le soir du 31 décembre, en début de soirée, avec son gros sac à dos et sa grosse valise, au milieu des fêtards qui commencent à arriver. Et oui, c'est la fiesta sur les champs, le soir du 31. Et après? Eh bien après, les policiers apprennent que Janet, qui était complètement perdue, a appelé les parents de sa copine Élise.
Quand elle nous a appelés, on s'est dit, la pauvre, on va pas la laisser toute seule. Bon, sauf que nous, on n'habite pas à Paris, on habite à Herblay, dans le Val-d'Oise. Et on parle pas trop anglais. Donc ça n'a pas été facile de lui expliquer. Hein. On lui a dit « Take the RER à Charles de Gaulle, direction Cergy. » Mais elle comprenait rien. Et puis c'est compliqué, hein, parce que le RER a 2 directions après Maison Lafitte. Il y a des trains qui vont à Cergy, puis il y en a d'autres qui vont à Poissy. Donc je lui ai dit « Fais bien attention, don't go to Poissy. » Va pas à Poissy, go to Cergy et descend à Conflans fin d'Oise. À mon avis, elle s'est trompée de ligne. On l'a attendue toute la soirée, mais elle n'est jamais venue. Elle a peut-être essayé de nous rappeler, mais le lendemain, on s'est aperçu qu'on avait mal raccroché le téléphone, alors.
Hypothèse donc, elle s'est trompée de RER. et elle a fait une mauvaise rencontre sur le trajet. On va peut-être trouver sa trace via les caméras vidéo. Ah ben non. Alors peut-être que quelqu'un l'a vu. Les policiers placardent des affichettes en forme d'appel à témoins. Aucun retour. Bon, ben, il ne reste plus aux policiers de la PJ que cet ADN retrouvé sous les ongles de Janet. Évidemment, ils l'ont passé au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques. Ça n'a rien donné. Ben, il n'y a plus qu'une seule solution. Déployer les grands moyens, ça va coûter assez cher, mais ça vaut peut-être le coup. Faire passer un test à tous les hommes qui habitent la cité des musiciens au Muro. Ils sont 120. Et ils sont convoqués un par un. Bien, ouvrez la bouche, monsieur. Je vais donc prélever un peu de salive et des cellules dans le creux de votre joue, hein, avec ce petit coton-tige, là. Voilà. Le problème, c'est que sur les 120, très peu répondent à la convocation. Ben oui, il y a de la défiance envers la police dans ces quartiers. Et puis les IVA n'ont aucune envie d'entrer dans ce fichu fichier, le FNAEG. Parce que normalement, votre empreinte génétique est effacée si vous êtes innocenté, mais en pratique, souvent, ces ADN restent dans le fichier. Donc, grosse méfiance. Et fiasco total de cette opération. Et après, eh ben, ma foi, il n'y a plus de pistes. Et les années passent. 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. À ce rythme-là, l'enquête sur le meurtre de Janet O'Keefe risque de finir sur les étagères des affaires non résolues. Mais pendant tout ce temps, les policiers ont continué coûte que coûte à relever l'ADN de tous les hommes habitant au Muro. Il a fallu du temps pour les convaincre d'accepter. On est maintenant en 2008 et ils ont tous fini par donner leur ADN. Tous sauf 6. Et comme parallèlement, pendant ces 8 années, le fichier des empreintes génétiques s'est beaucoup enrichi, un jour de 2009, l'ordinateur fait ding.
Oh putain, 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 ça y est, bingo. On a enfin un nom dans l'affaire O'Keefe. Adriano Arrojo da Silva. C'est un Français d'origine brésilienne. Il est rentré au fichier récemment après avoir foncé sur une voiture de police lors d'un contrôle.
Et là, les policiers s'aperçoivent que cet Adriano Arrojo da Silva est l'un des 6 hommes de la cité des musiciens au Muro qui refuse depuis 8 ans qu'on lui prélève son ADN. Tel que c'est parti, il est cuit comme un petit lu. Adriano Arrojo da Silva est interpellé le 17 février 2009 à 6h du matin. Grand gaillard, crâne rasé, larges épaules. Il est placé en garde à vue et l'idéal serait que 8 ans après, il avoue.
Janet O'Keefe, monsieur. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, oui. J'ai entendu parler de cette histoire. Mais moi, il n'était pas sur les Champs-Élysées. Le 31 décembre 2001. Sûr, j'y vais jamais. Vous avez reçu des convocations, monsieur, pour un prélèvement génétique. Vous n'êtes pas venu. Oui, je les recevais. Mais je n'ai pas répondu parce que ça ne me concernait pas. Hein. C'est tout. Vous êtes sûr que ça ne vous concerne pas, monsieur? Parce qu'on a retrouvé votre ADN sous les ongles de la victime. Mon ADN? Sous ses ongles? Ah, mais c'est une erreur. C'est une erreur du laboratoire, et forcément. Mouillez les chambres, vous, cette fille. Non, monsieur. Ça n'est pas une erreur. C'est bien votre ADN.
Normalement, dans une affaire criminelle, quand un type se fait coincer par son ADN, il comprend tout de suite. Il comprend qu'avec ou sans aveu, il va finir devant la cour d'assises. Et qu'avec ou sans aveu, il sera probablement condamné. L'ADN est la reine des preuves. Et donc à ce moment-là, son intérêt, c'est d'avouer. Un type qui avoue face aux évidences sera toujours mieux traité qu'une bourrique qui s'entête à nier. Mais lui, au début, il résiste. Les flics l'envoient en cellule pour le laisser mariner, gamberger. Ils le ressortent au milieu de la nuit et c'est reparti.
Bien, monsieur, comment expliquez-vous la présence de votre ADN sous les ongles de Janet O'Keefe ? On vous écoute.
Son explication, car maintenant il a gambergé et il en a une, est assez pitoyable.
Oui, c'est vrai, et où c'était Janet, les soirs de réveillon. Et elle s'était fait agresser par une bande de chiens. Alors j'ai suis intervenu pour l'aider. Et sans doute qu'elle a cru que moi aussi j'ai l'agressé. Elle m'a griffé, je me souviens, elle m'a griffé.
Oh le gros mytho! On en a vu des explications moisies, mais celle-là, c'est le pompon.
C'est bien essayé, monsieur. Et je voudrais croire ce que vous me dites. Pourquoi pas? Sauf qu'on a trouvé des poils dans le sac de couchage qui entourait le corps. Et que ces poils, monsieur, sont aussi les vôtres. Donc?
Eh ben donc, il va falloir qu'il invente autre chose pour justifier la présence de ses poils dans le sac de couchage. Donc, il est là, il gamberge en silence, il cherche une porte de sortie. Et là, les poulets, qui sont des rusés, se mettent à lui parler de sa chérie.
Ça va bien dans votre couple, monsieur Arrojo da Silva, avec votre femme? Ça va, vous êtes amoureux? Oui. Mais ma femme, ça va? Dites, je pourrais l'appeler justement, ma femme, au téléphone?
Normalement, en garde à vue, ça ne se fait pas trop. La stratégie est plutôt d'isoler le suspect. Mais là, les flics de la PJ font une exception. Et pour respecter l'intimité du couple, bah oui, ils sortent de la pièce. Mais de l'autre côté de la porte, ils ouvrent grand leurs esgourdes.
Allô? Allô, chez moi? Je voulais te dire que je t'aime, mais que je dois partir quelque temps en prison parce que j'ai tué une femme. Je t'aime. Il va falloir que tu sois très, très patiente.
Eh ben voilà, il est mûr, Adriano. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler.
Il l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Elle avait l'air triste. Et on a commencé à parler. Et comme elle avait touché bagages, il lui proposait de dormir chez moi si elle voulait. Et elle a dit oui. Alors on est entré chez moi, au bureau, et on a fait l'amour. C'était très bien, elle était contente. Mais après moi, je voulais recommencer, et elle voulait pas. J'ai pas compris ça. Elle voulait partir. J'ai dit non, je veux recommencer. Alors, je l'ai frappé avec une barre de fer. Et après, j'ai mis ça à crier très fort. Et moi, je ne voulais pas qu'elle crie. Alors, j'ai serré son cou. Et après, j'ai enroulé une rallonge électrique autour du cou. Et je l'ai pendu à la poignée de la fenêtre.
D'accord, monsieur. Et après?
Et après, comment dire? Je suis resté seul face à son cadavre. Je ne savais pas quoi faire.
Alors j'ai fini par l'habiller avec ce que j'avais. Et je l'ai mis dans mon sac de couchage. Et je l'ai jeté par la fenêtre. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, sous ma fenêtre, on va savoir que c'est moi. Alors je suis descendu et j'ai traîné les sacs de couchage jusqu'au terrain vague.
Vous remarquerez que son récit corrobore parfaitement les informations recueillies par l'enquête. Sauf sur un point. Il a dit qu'il avait fait l'amour avec elle et qu'il l'avait tuée parce qu'elle ne voulait pas recommencer. Or, souvenez-vous ce que disait le médecin légiste en 2001.
Et est-ce qu'elle a été violée, docteur ?
Non. Non, elle n'a pas eu non plus de relations sexuelles. D'ailleurs, elle avait ses règles. Hein, et elle portait un tampon.
Elle avait un tampon. Elle avait ses règles. Et le docteur dit qu'elle n'a pas eu de relations sexuelles. Il n'a pas couché avec elle. C'est un pipoteur. Cela dit, il réitère mot pour mot son histoire devant le juge d'instruction. Sauf que 2 mois plus tard, il se rétracte. On lui a extorqué ses aveux. Trop tard. Le procès d'Adriano Arrojo da Silva s'ouvre le 3 janvier 2012. Et là, grâce à ce qu'on appelle l'enquête de personnalité, on découvre son histoire. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça. Dans toutes les affaires criminelles, un homme ou une femme qui n'est ni policier, ni juge, ni avocat, qui est juste choisi parce qu'il a une expérience de la vie, par exemple un ancien travailleur social, est chargé de faire ce qu'on appelle une enquête de personnalité. Il rencontre les proches, les employeurs, etc. Il rédige d'abord un rapport pour le juge d'instruction, et en général, il vient raconter ce qu'il a appris devant la cour d'assises. Et dans le cas d'Adriano Arrojo da Silva, il raconte une vie qui n'est pas tout rose, et même pas rose du tout. Adriano est donc né au Brésil. Et il est le fruit d'une relation illégitime, une liaison que sa mère, très jeune, a eue avec un homme marié. Conséquence, pour sauver l'honneur, la mère a caché sa naissance. Elle l'a fait élever par un couple de paysans. Et puis quand Adriano a 5 ans, la mère va voir le père.
« Tu as un fils. Il y a un fils avec toi. Il s'appelle Adriano. »
Et là, surprise, le père le récupère. Et il l'emmène vivre en France. Pas en France métropolitaine, en Guyane voisine. Mais l'élan paternel ne dure pas longtemps. Et le gamin se retrouve dans les rues de Cayenne à mendier. Il l'a abandonné. Il l'a récupéré et il l'a abandonné, le salopard. Et là, la maman d'un petit garçon qui a à peu près le même âge qu'Adriano va voir le père pour proposer de l'adopter. Et le père est d'accord, bien sûr. Bon débarras, le crétin. Et voilà comment Adriano devient français, puisqu'il a été adopté en Guyane. À 23 ans, il débarque en région parisienne. Et comme il est baraqué, il devient déménageur. Mais c'est un instable. Il change souvent de métier. Et puis à côté de ça, il aime les femmes. Une, deux, 3 femmes successives, et à chaque fois, il leur fait des gosses. Mais déjà, il marche de travers. L'enquête de personnalité révèle qu'il est violent avec toutes ces femmes successives. Je vous l'ai souvent expliqué, ça. La quasi-totalité des meurtriers porte un gros sac à dos sur le dos. Un sac à dos rempli de désamour, de souffrance, de rejet, d'abandon. Et d'ailleurs, quand l'expert psychologue vient à la barre,
c'est un homme qui a, je dirais, beaucoup de rancœur envers les femmes. Et cette rancœur tient au fait qu'il a été abandonné par sa mère. Et c'est un complexe qu'il a, en quelque sorte,
déporté sur toutes les femmes de sa vie. Et je dirais sur toutes les femmes en général. Ça n'est pas une excuse, tout ça, pour avoir sans doute tué Janet O'Keefe. Mais disons que c'est un contexte. À part ça, Adriano Arrojo da Silva maintient sa dernière version des faits, agrémentée de détails supplémentaires.
Oui, j'ai rencontré cette fille. Et oui, je l'ai amenée chez moi, au Muro. Et on a fait l'amour une première fois, dans les trains, dans les toilettes des trains. C'était une sacrée cochonne, hein. Elle aimait ça. Et après, on est arrivé chez moi, et puis, on s'est disputé. Et elle est partie. Et là, il lui a donné mon sac de couchage. C'est pour ça que vous avez trouvé des poils de moi dans le sac.
Sauf que le médecin légiste vient rappeler qu'il ment. Janet n'a jamais couché avec lui. Le docteur est formel. Elle avait ses règles. Elle portait un tampon. À l'issue, Adriano Arrojo da Silva est condamné à 30 années de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Alors il fait appel et il prend à nouveau 30 ans, mais sans période de sûreté. Et à cette heure-ci, il est toujours en prison. Pour débriefer cette histoire, Maître Cathy Richard du barreau de Pontoise est là. Vous étiez, Cathy, dans ce dossier, avocate de la partie civile. Vous défendiez les intérêts d'une partie de la famille de Janet. Vos clients, donc, sont australiens. Ils débarquent 11 ans après, puisque le procès a lieu en 2012, dans un système judiciaire qu'ils ne connaissent pas, sans parler la langue, je suppose, sans rien comprendre. C'est pas facile pour eux.
Alors, il y avait une interprète à l'audience. Il y avait une interprète à l'audience qui était là deux fois, en première instance et en appel, et qui leur, au fur et à mesure, qui leur traduisait ce qui se passait.
Et vous, vous parlez suffisamment anglais pour dialoguer avec eux?
Disons que ça suffisait pour qu'on se comprenne. Mmh. Voilà. Effectivement, pendant l'instruction, j'ai pu les tenir informés de ce qui se passait dans le cadre de l'instruction, oui, à ce moment-là. Et puis, effectivement, il fallait leur appeler, leur expliquer, parce que même un juge d'instruction, pour eux, c'est quelque chose de complètement de surnaturel. Enfin, voilà, ils ne comprenaient pas pourquoi on tardait tant. Une fois qu'on avait l'assassin, pour eux, ils ne comprenaient pas pourquoi le procès tardait tant.
Eux, 8 ans après, quand on arrête Arrojo da Silva, ils y croyaient encore?
Bah, toute façon, c'est une plaie béante. C'est une angoisse qui commence à poindre, il faut vous dire, en 2001, lorsque, à l'aéroport, Christine attend sa sœur Janet. Elle est aux États-Unis et elle attend Janet qui va sortir de l'avion. Sauf que Janet ne sort pas de l'avion. Mmh. Et là, l'angoisse commence. Et vous savez, c'est un dossier qui date de 2001. Et à cette époque, on n'avait pas de téléphone portable. Et on se rend compte à quel point tout aurait été tellement différent. Différent. D'abord parce que, du coup, quand Christine attend Janet et ne la voit pas, elle se dit elle a loupé l'avion, elle est dedans. Alors, elle apprend qu'elle n'est pas dans l'avion, elle essaye de remonter. Et alors qu'elle cherche sa sœur à New York, oui, pratiquement, parce qu'au départ, elle se dit je l'ai loupé. Enfin bon, eh bien, d'un autre côté, on a un corps au Muro dont on ne sait pas qui elle est. Le médecin légiste va dire, lorsqu'il procède à l'autopsie de Janet, une chose est certaine, c'est que c'est pas une Parisienne. Parce qu'elle a les poumons tellement roses, elle a les poumons en très bon état, elle a vécu dans un lieu non pollué. Ça, c'était certain. Mais c'est tout ce qu'on savait d'elle pendant un certain temps. Et puis donc, il y a à deux bouts du monde, en fait, on a les deux éléments de cette terrible affaire.
C'est très touchant. Le verdict, donc, en première instance, il y a une condamnation à 30 ans avec une perte de sûreté de 20 ans. Et en deuxième instance, on appelle sans peine de sûreté. Quel sens ça peut avoir pour vous qui êtes partie civile qu'il ait ou qu'il n'ait pas de peine de sûreté?
j'apprends déjà à mes clients à ne pas attendre de la peine qu'elle adoucisse leur peine.
Oui.
La sanction ne doit pas adoucir la souffrance parce qu'on n'y trouve jamais son compte dans la sanction. Ensuite, il faut savoir que Arroyo da Silva avait été particulièrement ordurier en première instance.
Oui.
Il avait vraiment décrit Janet dans des termes épouvantables. Enfin, lui avait sauté dessus dans le train pour le violer presque. Enfin, c'était il parlait d'elle dans des termes épouvantables. Il la mettait en cause dans tout. Enfin, c'était. Je pense que les jurés ont eu du mal à lui pardonner ça. En appel ensuite, il a dit qu'il était innocent toujours. Il a mis en cause à ce moment-là les policiers en disant qu'on lui avait extorqué ses aveux. Alors, je me souviens avoir dit, bah écoutez, je vais une confiance totale à la police criminelle de Versailles. J'ai dit, bah, très bien, on a le film vidéo, il a été filmé pendant toute sa garde à vue, bah, passons le film. Et donc, on a passé des extraits du film où, en fait, on se rendait compte que
il n'y
avait aucune pression. Non, puis il n'y avait aucune pression et ce qu'il disait était parfaitement transcrit. Voilà. Mais, si vous voulez, justement, c'est aussi un truc, c'est que quand il est en garde à vue, on a cette chance d'avoir cette vidéo. Et je parlais tout à l'heure de l'absence de téléphone. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une gamine, parce que c'est une gamine, Janet, c'est une fille qui est naïve, c'est une fille gentille, c'est une fille douce. D'ailleurs, en fait, celui que vous appelez le kiwi, là, Anthony, il a trouvé ennuyeuse, hein, surtout, c'est ce qu'il a quand même fini par dire. C'est que, franchement, passer le réveillon de 31 avec elle, boring, hein, voilà. Et donc, il faut imaginer notre Janet sur les Champs-Élysées. Un 31 décembre, c'est le soir où tout le monde fait la fête. Et elle est fatiguée, elle est indisposée, elle a un sac à dos énorme, elle trimballe sa valise. Elle a l'impression que tout le monde l'abandonne parce que Élise n'est pas venue et elle ne comprend pas pourquoi Élise n'est pas venue. En fait, visiblement, elles se sont loupées. Elles n'étaient pas au même endroit, effectivement. Élise n'est pas venue. Ensuite, elle appelle Martins. Martins dit qu'il va venir et lui aussi lui pose un lapin et elle est complètement perdue. Et quand Arroyo arrive avec sa bonne mine et qu'il lui explique qu'il va, il va la conduire parce qu'il faut qu'elle prenne ce foutu RER, enfin bon, et ben elle le suit. Et là, il faut encore imaginer cette gosse qui passe de l'effervescence des Champs-Élysées un soir de 31 décembre, alors qu'elle est seule et triste, et elle va suivre cet individu qui va lui faire prendre le train de banlieue, elle va arriver au Mureau, et elle est très bien élevée, Janet, vous savez, elle est très correcte. Donc, et il marche de la gare jusqu'à chez lui, et elle n'ose pas lui dire, mais elle s'inquiète, mais elle n'ose pas lui poser des questions.
Mais derrière,
et lui va changer de version tout le temps, la concernant, enfin, c'est vraiment... C'est terrible. Vous avez insisté sur cette histoire de tampon, mais de toute façon, dans toutes ces versions, ils avaient une relation sexuelle et ensuite, en fait, ils s'engueulaient et ils la foutaient dehors. Donc, de toute façon, elle n'avait pas le temps d'en remettre un, vous voyez. Voilà, c'est horrible. Mais la pauvre Janet, qui était tellement pudique, tellement réservée, si elle savait que 20 ans après, on parle encore de ces règles de santé. Mais vous imaginez l'horreur de ça. C'est terrible.
Mais derrière ma question, Cathy, sur la peine de sûreté, il y a cette question sur sa dangerosité. Parce que quand on donne une peine de sûreté à quelqu'un, c'est qu'on pense qu'il est profondément dangereux. Et ma question, c'est, à votre sens, était-il parti pour réitérer ?
Moi, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui était instable et dangereux. Ensuite, il est certain qu'il avait une compagne plus régulière au moment de son interpellation. D'ailleurs, c'est en l'appelant que, finalement, il revient... Enfin, il finit par avouer. Enfin, voilà, ça a été finement joué de la part... des policiers qui ont bien senti qu'ils pouvaient flancher de ce côté-là et puis finir par dire la vérité, ça le rendait humain, vous voyez. Maintenant, vous savez, je pense très sincèrement que pour les fréquenter depuis 27 ans, les décisions rendues par les cours d'assises sont pas aussi facilement explicables que dangereux, pas dangereux. Je pense que juste les jurés ont eu envie ou pas de lui coller 20 ans de sûreté. Hein.
Mais est-ce qu'il avait un profil de prédateur ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce type que vous avez vu dans le box de la cour d'assises deux fois, aurait pu en tuer d'autres après?
Une chose est certaine, c'est qu'il ne l'a pas fait, puisqu'entre 2001 et le moment où on l'interpelle en 2009,
il se passe rien.
Il se passe rien. Grâce d'ailleurs à la persévérance d'une enquêtrice, hein, c'était Cathy Nicole qui remettait systématiquement l'ADN dans la machine en disant un jour ça tiendra, un jour on l'aura. Forcément, Déjà, à ce moment, il fait rien. On sait quand même qu'il fait rien. Je pense que ça a été, je pense que c'était un type qui était effectivement une bombe à retardement, quelqu'un qui détestait les femmes, qui pouvait être violent, qui, mais, ça a été un crime d'opportunité. Et puis, une déflagration de violence parce que elle voulait pas lui céder, alors qu'il l'avait amenée jusqu'à chez elle. Je pense qu'il y avait de l'incompréhension. Elle l'a suivie. Il l'a amenée, il savait ce qu'il faisait, hein. Mais, une chose est certaine, c'est qu'il l'avait pas réitéré entre 2001 et 2009. Maintenant, c'est sûrement pas moi qui vais vous plaider défense. Oui. Vous voyez? Bon. Oui. Voilà.
Justement, son histoire personnelle, sa haine des femmes, qu'il aurait hérité donc de la détestation de sa mère, ça vous convainc ?
Je vais vous dire franchement, ça n'a pas à me convaincre ou pas. Moi, j'étais aux côtés des victimes, j'étais aux côtés de la famille de Janet, j'étais là pour faire vivre Janet, j'étais là pour que Janet soit autre chose que ce corps dans ce sac, dans ce duvet qu'il avait balancé par la fenêtre. J'étais là pour qu'on sache qui elle était, et j'étais là pour qu'on comprenne quelles pouvaient être ses dernières heures. Ensuite, ce qui pouvait me convaincre ou non le concernant, si, il y a des choses quand même qui me regardaient. Quand il vient expliquer que ses aveux ont été extorqués et qu'il n'a pas du tout dit ça, là, ça me regarde, oui, ça me regarde. Et c'est là où je demande à ce qu'on visionne c'est son interrogatoire. Lorsqu'il salit Janet, là, ça me regarde, oui. Ensuite, sa personnalité, je ne suis pas psy, je ne suis pas enquêtrice de personnalité, je n'ai rien à dire là-dessus. La seule chose que je pouvais constater, moi, c'est que c'était un type intelligent qui a utilisé énormément. En fait, il avait une faculté d'adaptation incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui servait un élément, clac, clac, il en donnait une explication. Voilà. Elle avait son ADN sous les ongles. Ah oui, mais c'est parce qu'elle se battait. Elle m'a griffé sûrement parce que je la défendais. Elle avait. À chaque fois, il avait une explication. Vous voyez, c'est un type qui était intelligent et qui s'adaptait. Ça, oui, c'est pareil. Ça m'intéresse parce que ça va m'intéresser dans la façon qu'il a de nier. Ensuite, sur, j'allais dire, les circonstances qui ont fait de lui et ce qu'il est, au juré d'apprécier, au psy d'en parler. Franchement, non, moi je suis aux côtés de mes clients et je ne vais pas prendre un mouchoir pour pleurer. Voilà, c'est clair. En tout cas, pas pour pleurer pour lui. Certainement, en revanche, j'ai pris souvent un mouchoir pour essuyer les larmes de mes clients, oui.
J'ai adoré parler avec vous, comme d'habitude, Cathy Richard.
Je voudrais juste ajouter que tous les 31 décembre, lorsque vous verrez les Champs-Élysées en liesse, je voudrais que vous pensiez à Janet O'Keefe.
Merci, Cathy Richard.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.